La mort de Monsieur de Noâtre et de Madame de Ferlinde. La pourpre sanguinolente de la grosse rose rouge épanouie semblait ruisseler derrière la vitre de la porte-fenêtre. Les pétales tremblaient et la branche épineuse griffait le cristal. Il faisait grand vent au dehors et, sous un ciel noir, les eaux irritées du jardin s'assombrissaient. Les vieux arbres se balançaient en gémissant. La stature des troncs projetait l'étirement des branches et suspendait la palpitation des feuillages. Le souffle filtrait par les jointures des portes, et le marquis, assis dans un grand fauteuil, le coude sur la table de marbre, fumait lentement. La fumée de sa pipe montait droite jusqu'à ce que, prise dans le remous d'un vent coulis, elle tourbillonna, dénouant ses anneaux entraînés éparses. Il avait ramené sur ses jambes les pans à fleurs de sa houppelande. Le crépuscule n'apaisait pas la bourrasque. La grande rose remuait, crispant la colère de ses épines. Devant les fenêtres, une petite chauve-souris passait, repassait, errante et ahurie. Pour se rendre à Oshina, recontinua M. Damercœur, il fallait prendre l'une des deux routes. Celle de mer, la plus courte, m'agréait peu. Par l'autre, c'était 6 jours de cheval. Je m'y décidai. On m'assura de la bonté des auberges et le lendemain, à l'aube, je cheminais à travers la plaine. De hautes montagnes, qu'on creuse, s'élevaient à l'horizon. Je les atteignis rapidement. Mon cheval allait d'un bon pas et je le laissais aller. La plus grande partie du voyage se passa sans incident. Aucune rencontre, ni dans les hôtelleries vides, ni sur les chemins déserts. J'approchais, et au matin du 6e jour, il ne me restait plus à traverser qu'un restant de forêt. Le lieu m'apparut singulièrement sauvage. Un éboulement de roches monstrueuses entassait là des croupes ébréchées, cabrait des poitrailles velues et allongeait les pattes difformes. Les taches de la pierre imitaient la marbrure des chairs. Des flaques d'eau luisaient comme des yeux et le velours des mousses ressemblait aux poils des pelages. Le sol jaune se creusait d'ornières et se bossuait par endroits d'échines pierreuses. Parfois, une source rauque et douce. Les aiguilles de pin rougeâtre feutraient la terre d'une rousseur de toison. Au sortir de la forêt, on dominait une plaine sourde, un paysage de broussailles et de monticules. Je m'arrêtai un instant pour contempler son étendue monotone que bornait une crête rocheuse derrière laquelle se trouvait Oshina. J'allais me remettre en marche quand j'entendis un galop derrière moi et un cavalier monté sur un cheval alezan m'accostant, me saluant. Un costume de chasse en cuir roux le vêtait et amplifiait sa corpulence moyenne comme sa stature. Sa chevelure brune s'éclaircissait par places d'un reflet fauve et sa barbe en pointe roussoyait un peu. Le soleil, déjà sur son déclin, le mordorait tout entier, et la couleur de sa personne s'accordait avec l'ocre de l'horizon et l'or des feuillages d'alentour. Il paraissait harassé d'une longue course. Descendîmes côte à côte le chemin assez abrupt. Ayant su que j'allais à Oshria, il me proposa, s'y rendant aussi, de m'y mener par le plus court. La journée s'achevait. Nous longions maintenant des haies décharnées, enclosant l'aridité de champs pierreux. Un carrefour nous rencontra un troupeau de chèvres. Elles broutaient une herbe sèche. Leurs barbiches pointaient, et le bruit de leurs petits sabots dandinait leurs piflasques, et au milieu d'elles, un bouc à cornes tordues, paradait, obscène, prétentieux et puant. « Il a vraiment une mine de vieux satyre, » me dit mon compagnon avec un bref rire chevrotant. Il s'était arrêté pour considérer la bête qui le regardait curieusement. Le soleil baissait. Une lumière d'or pâle teignait les objets. La terre que nous foulions était rance et bilieuse, et derrière nous, l'âcre montagne étageait ses masses d'ocre nacaré. Mon interlocuteur reprit. Oui, cette terre est mystérieuse, et il s'y passe des choses surprenantes. Les races disparues s'y refont. J'en tiens presque la preuve et j'en guette la certitude. Il tira avec précaution de son porte-manteau une motte de glaise jaunâtre et me la tendit. L'argile s'effrita un peu dans ma main. Voyez-vous l'empreinte? Il me désignait une marque presque effacée. Mais c'est celle d'un faune. On m'a signalé aussi la présence d'un centaure. Je me suis embusqué plusieurs fois pour le surprendre. On ne le voit pas, mais on l'entend hennir. Bon, il doit être jeune, le poitrail maigre et la croupe encore bourrue. Au clair de lune, il vient se regarder aux fontaines, où il ne résoudrait plus. Il reste seul de sa race, ou plutôt, il la recommence. Elle a été détruite et pourchassée, comme celle des nymphes et des satyres, car ils existaient. On raconte que jadis, des bergers qui le surprirent endormi en amenèrent un au proconsul Sylla. Des interprètes l'interrogèrent dans toutes les langues connues. Il ne répondit que par un cri qui tenait du chevrotement et du hennissement. On le relâcha, car les hommes de ce temps savaient encore un peu des vérités obscurcies depuis. Mais tout ce qui exista peut renaître. Cette terre est propice à l'œuvre fabuleuse. L'herbe sèche à la couleur des toisons, la voix des sources murmure ambiguë. Ces rochers ressemblent à des belles inachevées. L'homme et l'animal vivent assez proches pour que se fassent entre eux des échanges consanguins. Le temps a dispensé des forces jadis conjointes. L'homme s'isola de ce qui l'environne et se retira dans son infirmité solitaire. Il a rétrogradé en croyant se parfaire. Les dieux se muaient jadis aux apparences de leur choix. Ils prenaient le corps de leurs désirs, aigles ou taureaux. Des êtres intermédiaires participèrent à cette faculté divine. Elle dort en nous, notre passion y crée un satyre intermittent. Et que nous sommes-nous incorporés aux désirs qui nous cabrent? Alors, il faut devenir ce que l'on est. Il faut que la nature se complète et retrouve les degrés qu'elle a perdus. Mon compagnon ne cessait de me parler fébrilement. Je suivais avec peine son discours, qu'il paraissait continuer sans prendre garde à ma présence. Cependant, le soleil s'était couché, et à mesure que le crépuscule augmentait, le singulier personnage semblait s'éteindre peu à peu. Il perdait l'éclat roux dont la lumière de cette fin de journée avait imprégné son vêtement de cuir tanné, sa barbe et ses cheveux. Son aspect d'entier se fonçait. Puis son exaltation s'apaisa en même temps que le paysage changeait. Bientôt nous vîmes miroiter l'eau d'un fleuve. L'humidité qu'il répandait lui faisait des bords verdoyants. Un pont l'enjambait de ses arches. La nuit venait vite. Mon compagnon ne parlait plus et je voyais à mon côté sa forme noire se sculpter sur l'ombre environnante. Arrivés au bout du pont dont le caillotis sonnait fort sous les sabots, il s'arrêta brusquement devant une lanterne qui pendait à un poteau. En le regardant, je me demandais si l'homme qui me tenait en tendait la main était bien l'étrange discoureur de tout à l'heure. Son visage me semblait différent, sa chevelure et sa barbe sombres ne rutilaient plus. Il se dessinait, svelte, élégant, et ce fut d'un sourire plein de politesse qu'en me quittant, il me dit son nom au cas où il me plairait de mon séjour en Cria d'y retrouver Adalbert de Nouâtre. La première personne que visita en Cria M. Damercœur ne fut point M. de Nouâtre. Le souvenir même de ce singulier personnage s'effaça quelque peu de son esprit. Il ne se préoccupa guère de le relancer et se passa fort bien de le rencontrer. Il ne le vit ni à la promenade, ni aux tavernes, ni chez les courtisanes qu'il fréquenta, car leur accès s'ouvrit vite à un jeune homme de son nom, bien monté en chevaux, linge et bijoux. Deux des plus galantes se le disputèrent même avec acharnement. L'une était brune et l'enleva à l'autre qui était blonde, qui le lui reprit, bien qu'il se fût mieux accommodé de les satisfaire tour à tour que de choisir entre elles. Son goût de la débauche et du jeu le lia vite avec quelques-uns des jeunes gens les plus élégants de la ville. On le pria bientôt à toutes les parties. Il y plut, et comme les barbons aiment à se mêler au désordre de la jeunesse, il connut là, par l'entreprise des plaisirs que tous recherchent, maint grave personnage dont l'abord lui était sans cela difficile. Ce commerce le mit de plein pied dans la meilleure société de Cria. À le rencontrer si souvent chez leur maîtresse, ces messieurs vinrent à le produire auprès de leurs femmes, et M. Damercœur connut bientôt les grands hôtels silencieux au fond de leur cour pavée. Il s'assit aux tables somptueuses, goûta les mets et les cuisines savantes, remua le feu des caves séculaires et vit, sous les lustres de cristal, parader en gala les importances et les beautés du lieu. Parmi toutes, une le séduisit particulièrement. On la nommait Madame de Ferlinde. Elle était svelte et rousse. Son corps, longuement souple, supportait une tête païenne, couronnée d'une chevelure dont le jaillissement ondé s'achevait en volute. La masse incandescente de cette coiffure semblait à la fois fluide et ciselée, avec la hardiesse d'un casque et la grâce d'une fontaine. Cela allait avec l'air et le port d'une nymphe guerrière. Elle vivait, veuve, dans un vieil hôtel au milieu de beaux jardins. M. Damercœur s'y rendit vite assidu, y passant des journées, y venant à toute heure sans que celle du berger sonnât pour lui. Cette chaste Diane aimait à parer sa beauté de tunique plissée, de croissant lunaire, et ce nom qu'elle portait, elle l'eût mérité. Elle aimait les musiques invisibles, l'ombre de l'amour et le murmure des eaux. Trois fontaines en répandaient l'harmonieusement clair au milieu d'une salle de verdure. Le jardin contenait aussi une petite grotte où Madame de Ferlinde venait souvent se reposer. Des lierres retombant y voilaient la lumière. Il y faisait un jour verdâtre et transparent. Et ce fut là qu'elle entretint pour la première fois M. Damercœur au sujet de M. de Nouâtre. Elle le dépeignit comme un homme à manie, mais érudit et charmant, d'une science prodigieuse et d'un goût raffiné. D'ailleurs, vivant fort solitaire, absent pour de fréquents voyages, grand amateur de livres, de médailles et de pierres gravées. M. Damercœur, sans s'expliquer sur le détail de sa rencontre avec M. de Nouâtre, en parla comme d'une occasion où celui-ci s'était montré fort serviable et accepta de Madame de Ferlinde l'offre qu'elle lui fit d'aller ensemble, lui remercier son compagnon de route et elle revoir un ami qui la négligeait depuis quelque temps. Un jour dit, ils se rendirent donc chez M. de Nouâtre. Dès l'entrée, au centre du vestibule, on remarquait un bronze antique qui représentait un centaure. Le large poitrail bombait ses muscles. La croupe ronde luisait. Les flancs semblaient palpiter. Le sabot levé attendait et le monstre équestre d'un bras agile élevait au-dessus de sa tête pamprée une pomme de pin en onyx. Partout où les mena leur autre, M. Damercœur admira un choix exclusif d'objets concernant l'histoire des demi-dieux terrestres ou marins et la mythologie magique des anciens. Des terres cuites en modelaient les effigies, des bas-reliefs en évoquaient les légendes, des médailles en remémoraient le culte. Harpies aux griffes aiguës, sirènes poissonneuses ou ailées, empuses à pieds beaux, tritons ou centaures, chacun avait là sa figure ou sa statue. Les bibliothèques renfermaient les textes relatant leur origine, leur existence, leur nature. Des traités discernaient de leurs espèces ou de leurs formes, énumérant toutes les sortes de satyres, de sylvains ou de faunes, et l'un d'eux, le plus rare, et que de Noître montrait non sans orgueil, contenait la description de Papocylène, qui est un monstre horrible et entièrement velu. Des cahiers en d'admirables reliures gardaient les recettes des philtres thessaliens par lesquels les sorcières de Lucien et d'Apulée changeaient un homme en hibou ou le transformaient en âne. Monsieur de Noître faisait à merveille les honneurs de son cabinet. Parfois, un léger sourire détendait sa bouche. Dans ses yeux très noirs, des paillettes de cuivre scintillaient par instants, et parmi sa barbe brune, trois fils d'or s'entrecroisaient. Au départ, il serra les mains de Madame de Ferlin entre ses doigts aux ongles aigus, et pendant qu'il la regardait, M. Damercœur vit les parcelles métalliques se multiplier dans ses yeux, qui jaunirent d'une sorte d'éclair furtif, passionné, violent et presque aussitôt évanoui. Cette première visite ne resta pas sans suite. M. Damercœur revit fréquemment le vestibule de stuc où passait le sabot levé sur son socle de marbre, le centaure de bronze. La pomme d'onyx luisait dans sa main. M. de Noître ne s'écria jamais sur l'origine et l'objet des collections singulières qui se trouvaient assemblées dans son hôtel. Il n'en parlait pas autrement que pour faire remarquer la rareté d'un livre ou la beauté d'un bibelot. Rien de plus et aucune allusion aux circonstances de leur première rencontre. Sa réserve causa celle de M. Damercœur. Ses rapports de cérémonie et amitié préservèrent le secret de l'un en n'autorisant pas la curiosité de l'autre, et tous deux semblaient d'accord à feindre un réciproque oubli. Madame de Ferlin était inquiète depuis quelques jours quand elle me fit prier de la venir voir. Je me rendis à son appel et je la trouvai nerveuse et préoccupée. À mes instances, pour savoir la cause de son trouble, elle me répondit évasivement, puis finit par m'avouer la transe singulière où elle vivait. Elle me raconta que chaque nuit, les chiens hurlaient plus de peur que de colère. Les jardiniers avaient découvert sur le sable des allées des traces de pas. Le gazon, piétiné çà et là, accusait une présence nocturne et, à mon grand étonnement, elle me montra une botte de glaise où l'on voyait une empreinte bizarre. C'était une foulée assez nette, et en examinant de plus près la marque durcie, j'aperçus, pris dans l'argile, quelques poils jaunes. Un invisible maraudeur semblait hanter le jardin et épier la maison. En vain, on posait des pièges et on essayait des rondes nocturnes. Malgré tout, Madame de Ferlin ne pouvait se défendre d'une appréhension insurmontable. Je raisonnai de bon mieux la belle peureuse, et en la quittant, je lui promis de revenir le lendemain. C'était un jour de fin d'automne. Il avait plu. Les rues semblaient boueuses, les autres s'effeuillaient, les arbres s'effeuillaient, jaunes et rouges au crépuscule. La grande grille de l'hôtel se trouvait ouverte. Le Suisse sommeillait dans sa loge. J'entrai dans le vestibule et j'attendis un valet qui put m'annoncer à Madame de Ferlinde. Sa chambre, qui donnait sur le jardin, était au bout d'une galerie. J'attendis encore. Rien ne bougeait dans la vaste demeure silencieuse. Personne ne vint et le temps passa. Un faible bruit arriva à mon oreille. J'écoutais plus attentivement, il me sembla entendre des soupirs étouffés, puis la chute d'un meuble renversé. J'hésitais, tout se tut. Et tout à coup, un cri déchirant partit de la chambre de Madame de Ferlinde. Je traversai en courant la galerie et je heurtai la porte qui s'ouvrit toute grande. Il faisait déjà sombre, et voici ce que j'entrevis. Madame de Ferlinde gisait à demi nue sur le parquet. Ses cheveux se répandaient en une longue flaque d'or, et accroupie sur sa poitrine, une sorte de bête velue, informe et hargneuse, l'étreignait et lui dévorait les lèvres. À mon approche, le bloc de poils jaunes bondit en arrière. J'entendis grincer ses dents et ses ongles racler le parquet. L'odeur de cuir et de corne se mêlait au doux parfum de la chambre. L'épée à la main, je me ruais sur le monstre. Il tournait en rond, culbutant les meubles, griffant les tentures, évitant ma poursuite avec une agilité incroyable. Je cherchais à l'acculer dans un angle. Enfin, je l'atteignis au ventre. Du sang jaillit sur ma main. La brute s'effondra dans le coin obscur. Et tout à coup, en sursaut, me renversa d'une bousculade, enjamba la fenêtre ouverte, et dans un bruit de vitres brisées, sauta dans le jardin. Je m'approchai de Madame de Ferlinde, un sang tiède coulait de sa gorge déchirée. Je soulevai sa main qui retomba. J'écoutais son cœur qui ne battait plus. Alors je me sentis saisi d'une épouvante panique, je m'enfuis. Le vestibule restait vide, la maison semblait mystérieusement abandonnée. Je repassai devant le Suisse endormi, il ronflait la bouche ouverte, inerte d'une léthargie qui me parut plus tard suspecte, de même que l'absence de tout domestique en cet hôtel isolé, où Madame de Ferlinde paraissait pressentir quelque chose du bestial guet-apens qui rôdait autour de sa beauté. Il faisait nuit, j'errais par les rues en un désordre inexprimable. La pluie commençait à tomber. Cela dura longtemps. J'allais toujours sans savoir où je me trouvais, quand, levant les yeux, je reconnus la maison de Monsieur de Noâtre. Je savais, ami du chef de la police, et l'idée me vint de le consulter en même temps que de lui apprendre le tragique événement de cette affreuse soirée. D'ailleurs, cet hôtel si inopinément désert, ma présence sur le lieu du crime, tout cela constituait contre moi, par une suite de faits inexplicables, une prévention monstrueuse dont il était urgent de devancer le soupçon. Je sonnai. Le domestique me dit que M. de Noâtre était à la chambre qu'il gardait depuis plusieurs semaines. Je montai précipitamment l'escalier. Une horloge tinta 11 heures. Je frappai et j'ouvris sans attendre, je m'arrêtai au seuil. L'obscurité emplissait la vaste pièce. La fenêtre devait être ouverte, car j'entendais pleuvoir au dehors sur le pavé de la rue déserte où donnait l'arrière de la maison. J'appelais M. de Noâtre. Pas de réponse. Je m'avançais à tâtons dans l'ombre. Un peu de braise rougeoyait dans l'âtre. J'y allumais un flambeau pris sur une console où ma main l'avait heurté. La flamme grésilla. Un corps étendu sur le parquet gisait la face contre terre. Je le retournai à demi et reconnus M. de Noâtre. Ses yeux grands ouverts me regardèrent vitreux de leur onyx éraillé. Au coin de ses lèvres moussait une écume rousse. Sa main, que je tâtais, remplit la mienne de sang. J'écartai le manteau noir qui enveloppait le cadavre. Il portait au ventre une profonde blessure faite d'un coup d'épée. Je n'éprouvais nulle terreur, mais une violente curiosité me saisit. Je regardais avec attention autour de moi. Tout était en ordre dans la chambre. Le lit ouvrait ses draps blancs. Sur le parquet à losange de bois clair se dessinaient des traces de pas boueux. Il partait de la fenêtre et se dirigeait vers l'endroit où gisait M. de Noâtre. Une bizarre odeur de cuir et de corne empestait l'air. Le feu crépita, deux tisons rapprochés se rallumèrent et je m'aperçus alors que le misérable était tombé les pieds dans l'âtre et que la flamme avait brûlé ses chaussures et carbonisé sa chair. Cette double mort passionna, cria. Je fus appelé en haut lieu et sur les déclarations que je fis, on ne m'inquiéta pas. La connexité de ces faits tragiques resta à jamais douteuse et en suspens. Madame de Ferlande, ne laissant pas d'héritier, ses biens revinrent aux pauvres avec ceux de M. de Noâtre, sans voir non plus. Lui avait légué par un testament où il me réservait, en souvenir de lui, le centaure de bronze qui ornait son vestibule et tenait dans sa main une pomme d'onyx. Le valet était entré en boitant et une à une, il alluma les bougies aux appliques et celles d'un haut candélabre qu'il posa sur la table. Puis il ouvrit les portes-fenêtres pour assujettir les volets extérieurs. Le vent durait toujours. Du dehors venait une odeur de rose et de buis, et, attirée par la lumière, une petite chauve-souris s'insinua dans la vaste pièce. Elle rôda au plafond, comme si elle eût voulu y tracer un cercle sans cesse recommencé, et que rompait chaque fois une brusque encoche. Ses ailes délicates battaient vivement. Le marquis restait enfoui dans sa large houblande de soie brochée, et nous regardions la bête, agile, s'acharder patiemment à sa tâche mystérieuse qu'interrompaient les accros de sa hâte, et s'embrouiller au méandre captieux et à l'inextricable filet de son vol, qui signait l'air du paraphe magique de son intermittente incantation.